Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R. Duvois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Divois. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nicolas. Bonjour.
Bonjour.
Nicolas, entre autres, tu es animateur aussi du mouvement contre la réforme des retraites ADI.
Oui, c'est ça.
Et puis, notamment aussi, tu étais présent ce week-end à Sainte-Soline.
Oui, aussi.
Et donc, avant de commencer cette émission, j'avais envie de faire écouter un peu ce qu'on entendait dans les médias ce week-end concernant justement cette manifestation qui a eu lieu samedi. Donc, je ne sais plus quelle date nous étions, le 25, je crois.
Oui, 25-26.
Et nous écoutons et puis nous nous retrouvons tout de suite.
Jet de pierre et cocktail Molotov, gaz lacrymogène et tir de LBD. 2 jours après les affrontements entre 3000 policiers et gendarmes et les militants anti-bassines, le débat fait toujours rage sur les responsabilités de cette flambée de violence. Un manifestant était hier encore en état d'urgence absolue, 200 autres seraient blessés selon les organisateurs. C'est le cas de ce jeune homme, sidéré par l'escalade de violence.
Je me suis fait canarder par les forces de l'ordre. J'ai pris une grenade de désencerclement dans l'œil. Et je suis complètement choqué, moi, de cet état de guerre.
47 gendarmes ont aussi été blessés. La Ligue des droits de l'homme était présente pour observer les pratiques policières. Selon elle, les gendarmes ont ralenti l'intervention des secours.
L'usage de grenades de désencerclement, ça c'est sûr. Et puis et aussi beaucoup de lacrymogènes. Aujourd'hui, c'est absolument impressionnant. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais vu autant de lacrymogènes sur une manifestation.
Une affirmation contredite par le ministère de l'Intérieur qui assure que les gendarmes ont tout fait pour sécuriser l'évacuation des blessés.
Et d'une mobilité.
Voilà, ça c'était la partie proposée par France 24, donc samedi. Nicolas, alors toi étant présent, tu peux peut-être nous rappeler comment se déroulait cette journée étant présent.
Oui, oui, tout ça c'est très frais encore dans ma mémoire. Ce que j'ai envie là tout de suite, c'est j'ai une pensée quand même pour les deux personnes qui actuellement sont encore en état d'urgence absolue, c'est-à-dire que l'une est dans le coma, l'autre aussi, et on se demande si elles vont se réveiller, si elles vont pas se réveiller, et dans quel état. Et je me dis, si elles se réveillent pas ou qu'elles se réveillent avec des séquelles énormes, je me dis quand même tout ça pour ça, quoi. On était 25-30 000 personnes pour signifier notre opposition à ce type d'agriculture industrielle. D'un autre temps, pour exprimer notre opposition à la captation d'une ressource de bien commun par une minorité. Voilà. Et on se retrouve canardé avec à peu près 200 personnes blessées, et dont deux dont je viens de parler, qui sont dans un état d'urgence absolu. Et je trouve que vraiment ça va trop loin, quoi. Ça va trop loin. Tout ça pour défendre un trou dans le sol avec une bâche en plastique au-dessus, quoi. Qu'est-ce que ça symbolise? Quel est le message que l'État veut envoyer? Ça serait pas ridicule. Voilà, c'est pas le mot évidemment qui me vient à l'esprit. Ce rassemblement. Il a eu lieu dans des conditions difficiles, avec une interdiction de manifestation. Les organisateurs ont trouvé un plan B en dehors de la zone pour rassembler les gens le premier soir, le vendredi soir. On était dans un champ balayé par le vent, par la pluie. On a planté les tentes comme on a pu dans un champ inondé de boue. ça a été assez apocalyptique, et, mais quand même beaucoup de monde déterminé avec la volonté de faire passer ce message au gouvernement pour dire nos bassaranes, on n'en veut pas des bassines, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut revoir notre modèle de production agricole. Et on peut faire autrement. Et on a des propositions à faire pour faire les choses différemment. Alors moi j'ai entendu aussi les chiffres là qu'ont été donnés. Le ministère de l'Intérieur explique que nous étions 6 000. Alors nous étions évidemment pas 6 000, mais quand même, imaginons que nous étions que 6 000. En face de nous avions plus de 3 000 policiers. Donc ça veut dire qu'il y avait un policier, pour le ministère de l'Intérieur, il y avait un policier pour 2 manifestants. Voilà où on en est aujourd'hui, un policier pour 2 manifestants. C'est de la folie furieuse, quoi. Comment on peut envisager un tel niveau de répression pour un enjeu aussi banal, on va dire.
Avant de continuer, nous allons peut-être aussi présenter la notion de ce qu'est une bassine, hein, ou retenue de substitution, ou réserve de substitution, ou méga-bassine. Et donc, c'est un ouvrage de stockage agricole de l'eau qui est rempli durant l'hiver en pompant de l'eau dans les nappes phréatiques, ou parfois par les cours d'eau. Cet hiver, nous avons subi toujours une sécheresse. Les nappes phréatiques ne se sont pas forcément bien remplies. Je ne connais pas la situation dans les Deux-Sèvres où avait lieu cette manifestation. À votre avis, quelle est cette notion pour vous? Qu'est-ce que ça représente, ces bassines? Est-ce qu'elles sont viables par rapport à notre actualité?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le premier producteur agricole de l'Europe. Très bien. Sur l'ensemble des productions agricoles, on a quelques productions qui sont irriguées. C'est celle dont on parle aujourd'hui. Ça représente 7% de la totalité de la production agricole. Ces productions irriguées, elles servent principalement à produire du maïs. Ce maïs, il sert pour nourrir le bétail, c'est de l'ensilage, ou il sert aujourd'hui, depuis quelques années, pour produire des gaz à travers les méthanisateurs. En dehors de ça, la part qui est consacrée à irriguer des terres agricoles qui servent à l'alimentation humaine, comme par exemple des vergers qui produisent des fruits ou des potagers de maraîchers pour produire des légumes, eh ben ça représente 3% des 6%. Donc aujourd'hui, on a 6% des terres qui sont irriguées, et dans ces 6%, il y en a une toute petite partie qui sert à l'alimentation humaine. Le reste, c'est pour produire de l'énergie ou pour produire de la viande. Donc le premier mensonge du gouvernement, au-delà des aspects techniques, c'est que nous n'avons pas besoin d'irrigation aujourd'hui. Comme il nous l'explique, on peut du jour au lendemain arrêter de faire du maïs. On donnera autre chose à manger à nos vaches et nos bœufs. Et on peut réfléchir aussi à d'autres modes de production d'énergie que ces méthanisateurs qui sont gros consommateurs de maïs. Voilà. Ça, je voulais remettre l'église au milieu du village parce que c'est assez désagréable d'entendre notamment le ministre de l'Agriculture nous asséner de mensonges de ce type-là. On a besoin d'irrigation pour la France agricole. C'est un gros mensonge, c'est faux, c'est une toute petite minorité de terres qui sont irriguées. Et pour irriguer ces terres, on construit, comme vous dites Yves, des grandes retenues d'eau, des trous dans le sol avec des bâches plastiques, et on va surtout pomper, c'est pas de l'eau de ruissellement qu'on récupère quand il y a des gros orages ou à des périodes où il y a énormément de pluviosité. On récupère à travers des pompes l'eau qui est qui stagne dans les on va chercher l'eau dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques. Voilà, donc on sort de l'eau des nappes phréatiques qui se trouvent à température assez faible dans le sous-sol. On la met en surface à des périodes de l'année où il fait chaud, avec une évaporation de fou. Cette eau, elle profite à quelques agriculteurs qui irriguent leur maïs. Et derrière, on comprend bien qu'on est, à un moment donné, il va falloir faire le choix entre nourrir l'humanité ou asperger du maïs. Voilà.
Je rappelle un chiffre pour les Deux-Sèvres. Ces bassines permettent justement à contenter seulement 6% des agriculteurs du département. Donc il y a vraiment un accaparement d'une minorité sur une richesse qui appartient à tous, en somme.
Et ces méga-bassines sont construites et financées par de l'argent public à 70 ou 80%. L'agriculteur qui profite de l'eau de la méga-bassine, il la paye légèrement plus cher que l'eau qu'il a traditionnellement l'habitude d'utiliser. Mais le gros de l'investissement, il est fait par les pouvoirs publics, par l'argent public issu de nos impôts à toutes et tous.
Et puis aussi pour la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, qui est partie prenante dans cette initiative ou du moins cette utopie en quelque sorte. Et seulement la Confédération Paysanne s'y oppose. Alors la Confédération Paysanne était présente à cette manifestation aussi. On peut peut-être situer aussi le contexte de cette manifestation. Ce matin, en intervention Place de la République, tu indiquer qu'il y avait une minorité des manifestants qui étaient allés à la rencontre des forces de l'ordre. L'autre, une grande partie, elle, était plutôt bon enfant, assise sur des terres en tant qu'observateur, en quelque sorte.
Ouais. Nous étions donc 25 ou 30 000. Il y a une énorme majorité de gens qui, une fois arrivés devant le lieu de la bassine, se sont assis dans l'herbe, ont sorti des instruments de musique, ont chanté, ont pris la parole pour dire des choses. Très, très bon enfant, on a sorti le pique-nique, ça chantait, ça dansait. Et puis devant, vous aviez peut-être 200, 300, 500 personnes plus déterminées qui sont allées un petit peu à proximité des forces de l'ordre pour essayer de franchir ce cordon infranchissable. Mais évidemment, ce qu'on a montré principalement, c'est ces images-là. On a toujours pareil, les médias, il faut faire du sensationnel. On a montré la petite guérilla, enfin la grosse guérilla qui avait lieu donc, à proximité des forces de l'ordre. On a montré les véhicules qui prenaient feu. Alors, pour la petite histoire, ce qu'il faut, c'est, je ne sais pas si ça se voit beaucoup sur les images, mais à proximité des camions qui ont pris feu, vous aviez un camion à eau qui sert donc à repousser les manifestants à travers des lances d'eau haute pression. Et ces camions à eau, ils étaient vraiment à proximité de l'incendie et ça leur était très facile d'arrêter l'incendie. Je pense que ça aurait réduit le niveau d'anxiété générale. Mais d'avoir des voitures qui prennent feu et qui dégagent une énorme fumée noire, ça permet de faire des belles images. Donc là aussi, on voit la tactique de manipulation médiatique qui est mise en œuvre par le gouvernement.
Je ne sais pas à quelle distance vous avez pu vous approcher de cette bassine. Je crois savoir qu'il y avait eu la construction d'un talus de 8 mètres avec un fossé qui empêchait justement cette approche effective. C'est ce que vous avez pu voir ou alors c'était trop distant ?
Non, c'est ça. Il y avait cette première rangée de fourgons CRS. Et derrière cette rangée de fourgons CRS, vous aviez un grillage de 4 mètres de haut implanté avec des gros piquets. Et derrière, vous aviez le talus en tant que tel de la bassine, parce que un talus qui faisait peut-être 8 ou 10 mètres de haut, assez pentu. Et en haut du talus, vous aviez des CRS en poste avec tout l'arsenal pour éventuellement stopper un manifestant qui aurait pu passer à travers les mailles du filet. Donc c'est assez ridicule parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a un trou avec une bâche, quoi. Donc de quoi est-ce qu'on parle ? Quelle est la symbolique de tout ça ? Nous on est pour un autre mode d'agriculture. La Confédération Paysanne a pris la parole à plusieurs occasions pour expliquer comment eux voyaient les choses. Aujourd'hui, il y a 400 000 agriculteurs. Il reste 400 000 agriculteurs en France. Et là-dedans, c'est principalement de gros agriculteurs avec des cultures intensives, avec la suppression de bocages, avec des entrants pesticides à gogo, des OGM. Voilà. Et la Confédération paysanne, elle amène un autre type d'agriculture à taille humaine. Et par exemple, voilà, si je devais donner qu'un seul chiffre, eux aujourd'hui, le scénario qui prévoit, dont ils font la promotion, c'est de dire à terme en France, il nous faudrait 1 million d'agriculteurs sur des surfaces réduites, avec une approche différente à ce que comment on cultive, sous quelle forme, quelle mécanisation, quel type d'entrants, respectueuse, économe en énergie, que ce soit l'accès à l'eau ou l'accès à l'énergie en tracteur, etc. Donc voilà, dans le milieu militant, on dit un autre monde est possible. À la FNSEA, on dit une autre agriculture est possible.
Parmi la majorité des manifestants qui étaient en tant qu'observateurs assis, est-ce que vous avez pu capter le sentiment qui se dégageait à cette vision de violence?
Alors oui, il y a un sentiment de, il y a un sentiment de colère, évidemment. Hein. Voilà, quand on relativise un peu les choses, tout le monde était très très en colère par rapport à cette répression qu'a commencé d'ailleurs avant la manifestation, parce qu'il y a énormément de gens qui ont été bloqués sur les routes, notamment le samedi matin, des gens qui venaient en car des villes environnantes et qui se sont retrouvés bloqués, contrôlés, recontrôlés, et qui sont arrivés que le soir sur le lieu de la manifestation. Mais voilà, moi on a retrouvé un petit peu tous les publics. Il y avait des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Il y avait quelques enfants, des ados qui étaient là. Beaucoup de femmes. Hein, beaucoup de femmes. Moi, j'ai trouvé. Moi, je suis parti dans un véhicule. On était 9 et il y avait 2 hommes et 7 femmes. Donc voilà, c'est chouette et ça donne des perspectives intéressantes pour la suite.
La presse, on a pu voir son travail sur les médias, hein, avec les caméras braquées justement sur ces incendies de véhicules. Est-ce que vous l'avez aussi aperçu au sein de cette majorité de manifestants pour prendre un peu leur parole?
Oui. Alors, ils ont beaucoup interviewé les gens. On avait tous les médias qu'on connaît. Vous aviez aussi des associations de défense des droits de l'homme. Il y avait la Ligue des droits de l'homme qui était très présente et qui d'ailleurs, dans l'après-midi, a fait un communiqué pour expliquer que la police avait entravé l'accès à l'ambulance, hein, par rapport aux blessés, notamment la personne là qui s'est pris une grenade sur le visage et qui est tombée tout de suite dans le coma, qui a été réanimée, retombée dans le coma. Voilà, et l'ambulance, elle a pris beaucoup de temps à arriver parce qu'elle a été bloquée par les forces de l'ordre qui lui ont rendu la progression très compliquée. Donc la LDH a été la première à réagir. Il y a eu aussi un communiqué de presse un peu plus tard dans la soirée des organisateurs pour expliquer ce dysfonctionnement qui est grave. Alors vous avez maintenant le ministre de l'Intérieur qui dit que c'est pas du tout ça, on a mal compris, ce sont les manifestants qui ont retardé, qui ont empêché l'accès de l'ambulance. Enfin voilà quoi, on est la mauvaise foi à son paroxysme. Je voudrais quand même préciser que au-delà des armes qui ont été utilisées par les forces de l'ordre, on a eu des grenades de désencerclement. Hein, ça a été dit dans le petit reportage sonore tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de protéger, de quoi on a peur? C'est assez révélateur de l'état d'esprit de du gouvernement aujourd'hui d'utiliser des armes de ce tonon. Alors en face de ça, j'ai aussi beaucoup entendu les médias dire que nous avons utilisé des jets de pierre. Alors ça, je reconnais qu'il y a eu beaucoup de pierres qui ont été jetées sur les forces de l'ordre et que nous avons aussi procédé à des tirs de mortier. Alors, moi, j'ai pas compris de quoi il s'agissait et j'ai regardé un petit peu en rentrant là, qu'est-ce que c'était qu'un tir de mortier. C'est une arme de guerre. C'est une espèce de gros tube qu'on porte sur l'épaule et qui permet d'envoyer des charges explosives à une distance importante.
Et sont des feux d'artifice.
Voilà. Et en fait, il y avait effectivement, j'allais dire des gamins, des jeunes qui avaient une espèce de tube en carton duquel sortaient des petits la poudre qui s'enflammait dans le ciel. Ça ressemblait à des feux d'artifice. Et vous avez le ministre de l'Intérieur qui parle de tir de mortier, quoi. Donc, est-ce que là, on n'est pas en train aussi de faire peur, de préparer l'opinion publique, de manipuler l'opinion publique à travers l'utilisation de mots, l'utilisation volontaire de noms de choses qui n'en sont pas.
Je reviens un peu sur cette journée. Donc, vous disiez que la presse était aussi parmi vous, les manifestants au calme. Qu'en avez-vous vu dans les médias, dans la journée qui a suivi? Est-ce que vous avez un sentiment que la parole a été plutôt délaissée et de montrer plutôt la violence?
Oui, bon, bah ça, c'est assez classique, hein. On a la même stratégie au niveau des manifestations qui ont lieu en ce moment partout en France contre la réforme des retraites. C'est un grand classique du gouvernement de montrer les 2%, 3% de choses qui vont pas, des quelques vitrines brisées. Évidemment, on est dans un grand discours bien qu'on connaît bien. Qui fonctionne bien. Voilà, on cherche à effrayer les gens, leur montrer qu'on est des éco-terroristes, hein. C'est le mot qu'avait employé M. Darmanin au mois d'octobre l'année dernière, hein, pour qualifier ce premier rassemblement qui avait eu lieu à l'automne dernier. Voilà, c'est aujourd'hui on est là-dedans et malheureusement on est presque plus surpris de ça, quoi.
Il y a un exemple, on peut parler en Espagne, Greenpeace rappelle aussi que des réserves de substitution en eau ont été créées autour du Tage et que ce système est arrivé à un point de gestion non durable puisque les nappes phréatiques ne se renouvelant plus, le Tage en est arrivé à mourir quasiment. Est-ce que c'est un exemple? Bon, on peut dire que Madrid, c'est le sud de l'Espagne, c'est extrêmement chaud, mais est-ce qu'on peut comparativement penser à ce qui pourrait se produire en France?
Oui, tout à fait. De toute façon, c'est une aberration de prendre de l'eau dans le sous-sol qui est stocké, qui s'évapore pas, qui a une température assez faible, et de la mettre en pleine surface sur des hectares et des hectares, une profondeur assez faible, et la laisser s'évaporer au soleil. Déjà, ça, c'est une idiotie. Et si on a besoin d'eau, déjà, pour quel usage? Moi, j'avais observé avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. Effectivement, ils ont mis ça en place dans les années 60. À une époque où on pensait à tort que les arbres poussaient jusqu'au ciel. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. On sait que les ressources, elles sont limitées, qu'on est nombreux, qu'on a beaucoup de besoins. Et il faut qu'on réfléchisse différemment. Et aujourd'hui, l'Espagne, ouais, ils sont en train de fermer leurs bassines. Ils sont en train de les fermer les unes après les autres parce que ça ne fonctionne pas. Et alors, en France, on est plus malin que tout le monde. Et on démarre, voilà. Et cet été, on va avoir des problèmes pour alimenter en eau potable certains quartiers de ville, certains villages de campagne. Et à côté de ça, on prend de l'eau dans le sous-sol et on la met en extérieur pour qu'elle s'évapore. Le taux d'évaporation, selon qui c'est qui parle, il peut être entre 20 et 70%. Donc voilà, selon qui parle. Mais de toute façon, qu'il soit de 20 ou 70%, c'est énorme. C'est énorme. Et il n'y a pas d'évaporation, l'eau, quand elle est stockée dans le sol.
Plus proche de nous, est-ce que comparativement, peut-on parler de bassines aussi au niveau de la Drôme?
Alors, au niveau de la Drôme, il y a eu ce projet là de, c'est plutôt le contraire d'une bassine. On a rempli une carrière qui servait pour le BTP à Grane. Bon, j'avoue que je ne suis pas trop au courant de ça. Je connais un peu plus le problème des réserves là, qu'ils ont fait du côté de la Clusaz. Il y a eu ce projet à la Clusaz de créer une réserve pour capter de l'eau et l'utiliser pour fabriquer de la neige, pour enneiger la station et permettre la pratique de ski de descente. Alors, ce projet est intéressant à double titre. Le premier, c'est qu'on tient absolument à continuer à pouvoir jouir de la montagne l'hiver. Ça, je tiens à faire savoir que ça ne concerne que 10% des Français. Hein, les sports d'hiver au mois de février ou au mois de décembre, là, pendant les fêtes de Noël, ça concerne 10% des gens. La grande, grande majorité des gens ne vont pas aux sports d'hiver parce que ça coûte trop cher. Donc, c'est un plaisir pour les riches. Là aussi, on va prendre l'eau commune, on va la stocker, on va fabriquer de la neige l'hiver. Et la deuxième chose, c'est que sur ce projet, il y a eu des recours administratifs, notamment sur la problématique de l'eau, et que le tribunal a interdit la poursuite du projet. Donc, victoire chez les opposants, tout le monde se félicite de la décision, et qu'il y a eu un appel. Et que cet appel, il a été fait par le ministre de l'écologie. Donc, vous voyez où on en est aujourd'hui. C'est le ministre de l'écologie qui fait appel au tribunal pour demander que cette décision de non-construction de réserves d'eau à la Clusaz puisse se faire. C'est assez scandaleux aujourd'hui d'avoir ce gouvernement autiste qui refuse de voir la réalité, qui nous assène de contre-vérités. La dernière en date concernant les méga-bassines, c'est que le ministre de l'Agriculture nous explique à qui veut l'entendre que c'est l'eau de ruissellement qu'on récupère pour remplir les méga-bassines. C'est un énorme mensonge. Il n'y a aucune eau de ruissellement qui atterrit dans les méga-bassines. Les méga-bassines sont alimentées uniquement par des captages dans les nappes phréatiques. Ces gens sont des menteurs, ce sont des voleurs, et nous ne pouvons plus leur faire confiance.
Je rappelle juste, pour fabriquer 1 mètre cube de neige, cela nécessite 2 mètres cubes d'eau. Donc on peut faire le calcul hein, sur les hectares de pistes enneigées dans les montagnes. À l'avenir, quelles sont les positions? Est-ce que vous donnez une suite aussi à cette manifestation?
Alors, moi j'ai envie de dire que notre force, c'est le nombre. Nous ne sommes pas des gens violents, nous ne sommes pas armés. Nous n'avons que, je dirais, notre nombre pour peser au niveau des décisions. Au mois d'octobre l'année dernière, le rassemblement Mégabassine, il y avait 7500 personnes. Quelques mois après, donc le 25 mars, nous étions 25 000. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le gouvernement essaye, ces 6 derniers mois, essaye d'expliquer, de justifier. Ça ne marche pas. Les gens sont de plus en plus nombreux à être opposés à ce genre de projet. Et si dans 6 mois, on refait une manifestation sur le thème des méga-bassines, ce n'est pas 25 000 que nous serons, c'est peut-être 60 000 ou 75 000. Donc, il va falloir continuer tant qu'on lâche pas, tant qu'on n'a pas gagné. On veut, nous, un arrêt purement et simplement de ce type de projet couplé à une politique réfléchie, partagée sur l'utilisation de l'eau dans le monde agricole, mais pas seulement. Ça, c'est sur les méga-bassines. J'ai envie de faire le parallèle avec ce qui se passe au niveau des retraites aujourd'hui. Les retraites aujourd'hui, on l'a dit ce matin, ça a commencé à la mi-janvier. À la mi-janvier, nous étions à peu près 250 ou 300 dans les rues de Die pour dire qu'on n'en voulait pas de cette retraite. On amenait des arguments techniques pour expliquer que cette retraite, elle n'avait rien de pragmatique, elle était purement idéologique. Aujourd'hui, Depuis cette période, il y a eu le processus, on va dire, institutionnel, les débats à l'Assemblée nationale qui ont été volontairement contraints dans un temps très court. Il y a eu ensuite ce vote qui n'a pas été un vote, qui a été une motion de censure, qui est passée pas loin. Il y a eu avant ça le 49-3, donc le gouvernement est passé en force. Et puis, plus récemment, il y a eu le discours de M. Macron à la télé pour encore une fois essayer de rassurer les gens et expliquer la pertinence et la légitimité de légiférer sur le départ à 64 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'il y a de plus en plus de gens dans les rues et qu'il y a 90% des gens qui sont contre cette réforme. Donc, le gouvernement, non seulement ne convainc pas, mais en plus de ça, à force d'explications, eh ben, il arrive à faire exactement le contraire de ce qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il met de plus en plus de gens dans la colère. Aujourd'hui, les lycéens, les étudiants sont rentrés dans la bagarre sur les retraites, mais pas que sur les retraites, évidemment, parce que quand on a 20 ans aujourd'hui, se projeter sur une retraite à 60, 62 ou 64 ans, ça semble complètement utopique. Moi, je pense que les vraies priorités, ce ne sont pas à savoir si on va arrêter de travailler à 64 ans ou à 62 ans. Les vraies priorités aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aura de l'eau cet été et l'été prochain à boire ? Est-ce qu'on on va pouvoir continuer à acheter des biens de consommation essentiels compte tenu de l'inflation ? Qu'est-ce qu'il en est de la répartition des richesses ? Il y a une minorité de gens qui se goinfrent, qui font des milliards et des milliards, et une majorité de gens qui se tombent dans la précarité. Comment est-ce que, humainement, on essaye de réfléchir à l'accueil de ces gens qui quittent leur pays en guerre ou en situation économique impossible ? Je parle bien sûr de tous ces phénomènes de migration. Comment est-ce qu'on se positionne ? Pour moi, les vraies urgences, elles sont là. Elles sont là et elles sont pas à magouiller un truc ça, pour faire plaisir aux injonctions de Bruxelles ou à je ne sais qui, au MEDEF ou autre. Elles sont pas à savoir s'il faut travailler 2 ans de plus ou pas. On a des urgences sur le haut de la pile et c'est ça qu'il faut qu'on traite aujourd'hui. Et il faut évidemment qu'on crée quelque part une unité nationale, j'ai un petit peu du mal à dire ces mots-là, mais on ne pourra pas y arriver si on coupe... Là où Macron, ce qu'il a réussi à faire, c'est déjà au départ à couper le pays en deux, et là maintenant, il s'est mis quasiment toute la population contre lui. Et ben, déjà, moi j'ai envie de dire, vite, il faut redistribuer les cartes, changer la constitution, peut-être passer à la 6e République, parce que ce système, il est à bout de souffle, on le voit aujourd'hui, redonner la parole au peuple, au corps intermédiaire, aux gens qui réfléchissent, aux gens qui travaillent, pour redéfinir toute une société qui, aujourd'hui, personne ne s'y retrouve quasiment.
Juste une petite observation, mis à part un avion de chasse qui est passé pendant l'intervention. Je n'entends plus les oiseaux qu'on entendait l'année dernière encore par la fenêtre du studio. Et là, cette année, il y a un silence. Ouais. Est-ce que ça, c'est aussi un signe ?
Oui, évidemment. Évidemment, on peut parler de l'extinction des différents, des espèces et des choses qui partent et qui ne reviendront plus. Alors moi, hier soir, j'avais un petit peu de temps. J'ai survolé parce que c'est assez lourd comme document le dernier compte rendu du GIEC. Voilà, ça fait froid dans le dos. La COP de Paris, il y a quelques années, on avait dit 1,5 degré avant 2050. D'accord, tout le monde était d'accord, tout le monde avait la pêche pour dire on va y arriver. Aujourd'hui, les 1,5 degré, ils sont prévus là à la fin de cette décennie, en 2030. Donc combien on aura en 2050 ? Combien on aura en 2100 ? Comment est-ce que l'espèce humaine va survivre à ces changements climatiques énormes ? Aujourd'hui, on est dans une impasse et on se donne pas les moyens de s'en sortir. Il y a des choses à faire. Maintenant, ça devient, c'est même plus urgent que ça devient critique tellement le phénomène s'amplifie. Le GIEC disait que les observations qu'ils font aujourd'hui, c'est encore pire que le pire des scénarios qu'ils avaient proposé il y a 3 ans. Voilà où on en est aujourd'hui, quoi.
Nicolas, comment se documenter ou comment connaître un peu les suites des événements à suivre ?
Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut militer là où on habite. Et bon, on habite dans le Diwa, c'est un bel endroit, préservé de beaucoup de choses, mais il faut qu'on on maintienne quand même la lutte pour continuer à vivre dans un environnement propice, agréable, avec des liens humains intéressants. Au niveau du Diwa, au niveau de la Drôme, au niveau de la France, voilà, je ne veux pas faire un discours Diwa et puis en dehors du Diwa, le chaos et je m'en fous. Voilà, moi je pense que le moment, il est propice à la réflexion, au contact. Il faut rester en contact les uns avec les autres. Il faut se parler, il faut se rencontrer, il faut faire du lien, il faut développer des réseaux, affinitaires ou pas, ou militants. Et il y a que comme ça qu'on s'en sortira. Moi, j'ai envie de dire, pour finir, on nous a expliqué depuis 40 ans, et moi je l'ai subi avant un jour de prendre conscience de tout ça, que notre vie, si on voulait que ça se passe bien, c'était à notre niveau que ça se passait, quoi. On a développé l'individualisme. Ma vie, je peux la réussir si j'en ai envie. Le yes, we can. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, je pense que ça ne marche plus comme ça et que c'est collectivement qu'on va réussir à se sortir et à trouver moyen de survivre dans ce monde bien compliqué. Donc, le collectif, le collectif, le collectif.
Nicolas, merci en tout cas d'être venu nous parler donc, de cette méga bassine de Sainte-Soline. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, à bientôt.
Au revoir.